Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta. Ces auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journal, suivi la revue de presse. Aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point, et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésienne. Et maintenant, on va écouter le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs et auditrices du monde entier, voici le journal d'aujourd'hui. 25 ans, Borobudur et Prambanan deviennent les héritages mondiaux. Le ministère de l'Éducation et de la Culture demande à la jeune génération de conserver ses patrimoines culturels. Le lait est devenu un instrument efficace pour lutter contre la perte de la génération. Voici le bulletin complet. Dans le cadre de 25 ans, après que le temple Borobudur et Prambanan ont fixé comme site d'héritage mondiaux par l'UNESCO, le ministère de l'Éducation et de la Culture a fait une série d'activités ayant pour thème « Love and Loss », soit aimé ou perdu. Ce programme a pour but d'établir l'amour de la jeune génération à l'héritage mondial et patrimoine culturel. Le directeur du patrimoine et de la diplomatie culturelle du ministère de l'Éducation et de la Culture, Nadiamuddin Ramli, a déclaré que les jeunes sont partie prenante et ont un rôle central dans le programme de la préservation du patrimoine mondial. Mardi, le 31 août à Jakarta, le directeur Nadiamuddin a dit « Par l'intermédiaire de ce programme, on souhaite que les jeunes aient l'essence de l'amour en sentiment d'appartenance, un sentiment de sensible et préoccupé par le patrimoine mondial. C'est pourquoi dans les activités de 25 ans de Borobudur et Prambanan, y compris 20 ans de Sangiran, nous faisons participer les jeunes, nous l'espérons à travers ces multimédias, peut-être socialiser la compréhension et la sensibilisation et de l'importance d'un patrimoine mondial. Nous sommes nus comme il est à la fin du 20e siècle, Borobudur est perdu, Prambanan est perdu, alors nos jeunes enfants, nos petits enfants, arrière-petits enfants, peuvent seulement lire. C'est pourquoi dans les activités de 25 ans de Borobudur et Prambanan, y compris 20 ans de Sangiran, nous faisons participer les jeunes, nous espérons à travers ce multimédia peut-être socialiser la compréhension et la sensibilisation de l'importance d'un patrimoine mondial, non seulement nu, comme peut-être à la fin du 20e siècle, Borobudur est perdu, Prambanan est perdu, alors nos jeunes enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, peuvent seulement lire l'histoire sans voir la forme du fait. Le directeur Nadiamuddin a expliqué que ce programme cible les lycéens, les SFRON, une formation pour devenir l'ambassadeur de la diplomatie culturelle d'Indonésie et pour proposer l'idée de la protection du patrimoine mondial à d'autres jeunes. Ces enfants seront sélectionnés par un processus de sélection qui se fait dans les médias sociaux. Le point culminant de 25 ans de la détermination de Borobudur et Prambanan se tiendra à Paris, en France, du 22e au 27 novembre 2016 à Quartier Général de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies. L'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, développe le programme Milk Goes to School, ou Boire du lait à l'école. Le programme vise à encourager les élèves à boire du lait tous les jours. L'étape de LIPI reçoit l'appréciation du Conseil national de l'industrie laitière, le président du Conseil national des produits laitiers, Teguh Budiana, au milieu du lancement de l'unité de traitement du lait et Open House de BioVillage dans le centre des recherches de la biotechnologie de LIPI à Cibinong, Bogor, Jaffa West, le lundi. Du lait peut améliorer la qualité des ressources humaines en Indonésie, en particulier si elle est prise tôt jusqu'à l'adulte. Le lait est nécessité en particulier pour les enfants, si bien qu'il n'y a pas de la génération perdue. Le lait sera un instrument efficace pour anticiper la génération perdue. Peut-être il y a beaucoup de gens de l'Indonésie, mais la qualité n'est pas bonne pour envisager la libéralisation. Le lait va à l'école est une mesure exceptionnelle et stratégique en raison de commencer à l'introduire dès les enfants. En outre, Teguh Budiana demande au gouvernement d'Indonésie d'être plus optimal à préparer les jeunes qualifiés au futur, entre autres en consommant du lait tous les jours. Selon lui, boire du lait chaque jour peut remplir les besoins nutritionnels et des enfants, de sorte qu'ils vivent en bonne santé et ont un état d'esprit de bonne qualité. Le président chinois Xi Jinping a accueilli la visite de courtoisie du président indonésien Joko Widodo à Hangzhou en Chine vendredi. À cette occasion, le président chinois espère que les relations avec l'Indonésie seront plus étroites et larges à l'avenir. Le président Joko Widodo était à Hangzhou pour assister au 11e sommet du G20. Le président Xi a déclaré que l'Indonésie et la Chine étaient deux bons pays voisins. L'Indonésie et la Chine devraient renforcer la coordination et la coopération dans la route de la soie maritime du XXe siècle et l'axe maritime mondial, élargir la coopération dans divers domaines tels que l'infrastructure, l'investissement, le commerce, les finances. En outre, le président Xi veut aussi renforcer les relations et la coopération entre les communautés des deux pays à travers l'échange de la culture, l'éducation, la santé et les médias. Il a ajouté que la Chine soutiendrait à l'ASEAN, y compris la communauté de l'ASEAN à travers la consultation avec l'Indonésie dans divers forums internationaux, afin de progresser conjointement les intérêts des pays en développement. Au cours de cette réunion, le président Joko Widodo a exprimé son soutien à la Chine pour la première fois d'accueillir le sommet du G20. Le ministère indonésien du Village du Développement des Régions Défavorisées et de la Transmigration, Eko Putro Sanjoyo, envie de les zones d'affaires de l'Indonésie et de l'Ouzbékistan, a augmenté le commerce bilatéral pour que le volume commercial augmente d'année en année. Le ministre Eko Putro Sanjoyo, dans son discours à la réception du 25e anniversaire de l'indépendance de la République d'Ouzbékistan, a déclaré « Pour promouvoir le commerce, les deux gouvernements encouragent les entrepreneurs à établir une coopération et des contacts directs. » Il a confirmé que les relations entre les autres fonctionnaires, entre les employeurs et entre les individus devraient être renforcées à l'avenir. En tant que l'invité d'honneur, le ministre Eko Putro Sanjoyo a demandé aux entrepreneurs des deux pays de participer à des foires commerciales tenues par l'Indonésie chaque année. la valeur du commerce entre l'Indonésie et l'Ouzbékistan a enregistré 12,8 millions de dollars américains en 2015. Festival du charme nautique Takabonerate 2016 permet pas de tonifier sur la vicissitude de la richesse marine d'Indonésie, fait le touriste étranger chanteur sans fin. Cette fois, les répercussions se feront sentir sur l'île Takabonerate aux îles Selayar, Sulawesi Sud, du 3 au 6 septembre 2016. Le directeur du bureau touristique de Sulawesi Sud, Jufri Rahman, dans sa déclaration officielle récemment, a expliqué que de nombreuses attractions culturelles ainsi que le tournoi nautique sont tenus au festival du charme nautique Takabonerate. Selon Jufri Rahman, l'explorateur de l'océan indonésien et les amateurs de tourisme maritime pourront profiter de la nature et la culture de Takabonerate. Une fois rencontrés, les participants sels indonésiens naviguant de Darwin en Australie, l'expédition 6 de l'île Takabonerate est l'un des trois événements internationaux organisés par le gouvernement régional des îles Selayar dans le programme Explorer Sulawesi Sud au cours de cette dernière année. Le dernier, le président serbe inaugure l'usine de nuit instantanée indonésienne. Le président serbe Tomislav Nikolic a inauguré l'usine de nuit instantanée de l'Indonésie. Le PT Indofood Success Makmur dans la ville d'Indija, à environ 80 km de la capitale de l'État de Serbie, Belgrade. L'inauguration de nuit instantanée est une forme de pénétration du marché non traditionnel avec le soutien de l'ambassade de la République d'Indonésie à Belgrade. Cela a été dit par la responsable de l'information sociale et culturelle de l'ambassade d'Indonésie en Serbie, Habadi Suedo, à Londres le samedi. Le président serbe apprécie et soutient l'investissement d'hommes d'affaires indonésiens en Serbie comme une étape concrète pour améliorer les relations des coopérations économiques entre les deux pays. L'usine est construite sur 5 hectares de terre avec l'investissement de 11 millions d'euros. La capacité de production actuellement atteint 105 000 boîtes de nuit instantanées par mois avec la distribution dans toute l'Europe. Depuis la production en août, cette usine absorbe des centaines de travailleurs en Serbie, que la majorité de la jeune génération de la Serbie. L'ambassadeur d'Indonésie, Hari R.J. Kando, a déclaré que la présence de Indofood en Serbie sont une preuve réelle de l'initiative de l'Indonésie pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine économique. Ces auditeurs d'ITIS, c'était notre journal aujourd'hui.
Chers amis, de divers événements importants dans cette semaine sont discutés par un nombre de journaux à Jakarta et nous les résumons dans la revue de presse. Le journal Compass a écrit dans son éditorial le jeudi 1er septembre sur l'objectif de l'amnistie fiscale. Le président Joko Widodo a réitéré que le programme d'amnistie fiscale cible les gros contribuables qui gardent leur argent à l'étranger. L'affirmation du président Le Marti a répondu à un certain nombre de questions qui se sont développées dans la communauté entourant la mise en œuvre du programme d'amnistie fiscale. Depuis la loi numéro 11 de 2016 sur l'amnistie fiscale a été adoptée le 1er juillet, le programme d'amnistie fiscale prend effet immédiatement jusqu'à la fin de mars 2017. De diverses réactions apparaissent en public. La plupart sentiment à l'aise parce que l'information initiale au public que le programme d'amnistie fiscale est destiné uniquement aux gros contribuables, l'investissement à l'étranger et n'a pas rempli leurs obligations fiscales en Indonésie. Toutefois, selon ce journal, regardez la réaction du public. Toutes les parties espèrent que le gouvernement peut se concentrer sur l'objectif initial qui consiste à rapatrier les avoirs des citoyens indonésiens à l'étranger par la remise des incitations fiscales. En outre, le gouvernement dit qu'il a les données de personnes indonésiennes qui ont des fonds à l'étranger. L'hypothèse était que les fonds étaient entre 4 et 11 000 milliards roupias. Selon le journal Compass, la socialisation des impôts, même si cela a été fait, doit être améliorée pour atteindre plus de contribuables et les contribuables potentiels. Une bonne communication continue d'être créée, de sorte que les gens seraient prêts à payer des impôts. Cependant, le journal Média Indonésia a écrit dans son éditorial le jeudi 1er septembre sur « Poursuivre en justice le mandat de stopper l'investigation de ceux qui brûlent la terre ». Le journal Média Indonésia a écrit que la mesure de la police régionale a stoppé l'investigation sur la supposition de l'implication de 15 sociétés dans les incendies de terre et de forêt l'année dernière est clairement en contradiction avec l'esprit de dissuader les criminels environnementaux. Une action en justice et politique est nécessaire pour questionner la mesure. C'est impossible de refuser que la faiblesse de l'application de la loi dans le cas de l'incendie de terre et de forêt est la cause principale de cette catastrophe écologique devenue une routine annuelle. Les organismes d'application de la loi n'ont pas une compréhension et une volonté de répondre à la source des incendies. La police de Riau n'a pas prétendu de publier le mandat de stopper l'investigation de ceux qui brûlent la terre. Ils mettent en avant une liste de raisons, car il n'y avait pas assez de preuves, la superficie brûlée contrôlée par la communauté et la société a déjà des extincteurs adéquats. Mais au jeu public, ce mandat reste maladroit. Les écologistes ont fait enflammer la communauté de Riau qui vivait pendant des mois dans l'entranglement de la fumée provoquée par les feux de forêt était furieuse. Beaucoup de questions demandent pourquoi la police a souvent généreux aux sociétés qui seraient la cause de la catastrophe. Joko Widodo a aussi questionné l'étape de la police de Riau. Récemment, le Parlement a montré leur attention en établissant un comité de travail pour explorer le cas des feux de terre et de la forêt. Le comité étudiera ce mandat publié par la police régionale de Riau. Prendre des mesures fermes contre eux fait partie des mesures de prévention afin que les incendies de la terre et de forêt ne se répète pas. Au contraire, s'il y a des fonctionnaires qui ont pitié d'eux, il a effectivement violé les instructions du président qui veut une répression sévère contre les feux de forêt, à la fois l'action administrative, pénale ou civile. Nous terminons avec l'éditorial du journal Business Indonesia qui a écrit pour que la subvention soit exacte. Un des plus grands défis de la répartition des subventions par l'État est d'assurer la subvention ciblée. À présent, le gouvernement indonésien a essayé d'améliorer l'octroi de subventions pour améliorer la base de données de la population et de profiter de la dernière technologie. Ce quotidien estime que l'utilisation de la dernière technologie en matière de gestion des données est que cela devrait être fait. Fournir des subventions pour les pauvres est l'un des devoirs de l'État dans un effort pour améliorer le bien-être de la société. Dans la Constitution, la tâche d'améliorer le bien-être public se reflète dans le préambule de la Constitution 1945. Les subventions sont accordées pour aider les pauvres tout en réduisant les inégalités dans la société. Le gouvernement souhaite que le taux de pauvreté de l'année prochaine diminue à 9,5% jusqu'à 10,5%. La valeur de la subvention gouvernementale au budget est assez grande. Dans le projet de revenus du budget et des dépenses 2017, le gouvernement a budgétisé 82,7 trillions de rupiahs en subventions non énergétiques. L'année prochaine, 44 villes sont préparées à acquérir des éléments hors-caisse de l'aide alimentaire. Le ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati au Parlement a déclaré que le gouvernement allait utiliser la réactualisation de la base de données intégrée 2015 pour analyser jusqu'à 40% des plus pauvres avec l'identité, l'adresse, jusqu'à ce que les caractéristiques déménagent. Selon le ministre, l'utilisation d'une technologie plus avancée et intégrée continuera à être poursuivie afin d'améliorer la précision et l'efficacité dans l'octroi de subventions. Toutes les parties espèrent qu'il y a de nombreuses améliorations dans la distribution des subventions à l'avenir. Chers amis, c'était la revue de presse.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie. Nous allons commencer le 3 septembre 1928, découverte de la pénicilline. Sir Alexander Fleming, professeur de bactériologie et chercheur britannique, découvre la pénicilline. Parti en vacances, il a laissé son laboratoire quelque temps. À son retour, il s'aperçut que ses boîtes étaient recouvertes d'une sorte de mousse blanche et verdâtre. Avant son départ, il y avait déposé des staphylocoques. En observant plus attentivement les moisissures, qui se trouve être un champignon nommé Penicillium notatum. Il se rend compte que ces staphylocoques ne se sont pas développés à certains endroits. C'est ainsi qu'il découvre la substance bactéricide produite par ces champignons et qu'il a nommé pénicilline. Il faudra toutefois attendre les travaux de Watt Florey et d'Ernst Schön pour que la pénicilline puisse guérir. Dans les années 1940, on chante le 3 septembre 1931, proclamation de la constitution du royaume de Yougoslavie. Le prince héritier de Yougoslavie devint roi du royaume de Serbie, Croate et Slovène en 1121, sous le nom d'Alexandre Ier. Fin 1929, il met fin à la constitution et crée le royaume de Yougoslavie, dont il est le monarque absolu. À coup d'oppression policière, il pourchasse communistes et opposants macédoniens et croates. Il fut assassiné par un nationaliste macédonien en 1934. La Yougoslavie fut démantelée par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. On termine le 3 septembre 1969, mort de Ho Chi Minh. En plein conflit avec les États-Unis, le président de la République démocratique du Vietnam, artisan de l'indépendance du pays et de l'instauration d'un régime communiste, meurt d'une crise cardiaque à Hanoï à l'âge de 70 ans. Ho Chi Minh, qui a vécu en France de l'âge de 27 ans à 34 ans, a créé le Parti communiste indochinois en 1930 et proclamé l'indépendance à la fondation de la République démocratique du Vietnam en 1945. Offrant 9 années de conflit avec la France, alors puissance coloniale. Après la défaite française de Dien Bien Phu, les accords de Genève en 1954 acceptent le partage du Vietnam en deux États, le Nord et le Sud. Ho Chi Minh entame pourtant la libération du Sud en se heurtant cette fois aux États-Unis qui soutiennent le régime de Saigon. En avril 1975, le nom de Ho Chi Minh est donné à la capitale du Sud. Je suis Luther, c'était notre rubrique aujourd'hui dans l'histoire. Ce sera l'édition le 3 septembre. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Fokus untuk hari Sabtu tanggal 3 September 2016. Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et en titre Reine Maxima visite l'Indonésie. La reine hollandaise Maxima Zorregita Seruti, dans sa capacité comme conseiller du secrétaire général des Nations Unies dans le secteur de la finance inclusive et du développement, a visité l'Indonésie du 30 août pendant 3 jours. La reine Maxima était accueillie par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à Jakarta. Lors de cet entretien, la reine Maxima a expliqué que la finance inclusive était une partie de la réalisation du développement durable en Indonésie, à travers le rôle des institutions financières ou l'autorité des services financiers. Selon elle, ceci pouvait améliorer la capacité des petites et moyennes entreprises. Au même jour, la reine Maxima a visité Indonesia FinTech Festival and Conference à Indonesia Convention Exhibition à Tangerang. Dans cette occasion, elle a témoigné la signature du protocole d'accord entre le Programme de développement des Nations Unies, PNUD, en Indonésie et l'Autorité des services financiers. La coopération est dans le but d'atteindre des objectifs de développement durable en Indonésie en renforçant le rôle des institutions financières. La reine Maxima a mené un entretien avec le président Joko Widodo le 1er septembre au Palais d'État, Jakarta. À cette occasion, le président Joko Widodo a demandé l'aide de la reine Maxima d'encourager le développement de la finance inclusive en Indonésie. Le terme de la finance inclusive est étroitement lié à l'amélioration de l'accès aux services bancaires pour tous les travailleurs, soit le secteur formel, soit informel. Avec ce système, la micro-entreprise devrait avoir le même accès aux banques de sorte que l'économie de la population soit en mouvement. Précédemment, le président Joko Widodo a signé la stratégie nationale de la finance inclusive pour les années 2016 au 2019. Dans cette stratégie, le gouvernement vise à atteindre un indice financier inclusif ou la littératrice financière communautaire à 75% en 2019. L'enquête de la Banque mondiale en 2014 a montré l'indice financier inclusif de l'Indonésie se situait à 36%. Après avoir entretenu le président Joko Widodo, la reine Maxima a mené un entretien avec le ministre coordinateur du développement humain et culturel, Puan Maharani. Selon Puan, la reine Maxima s'intéresse au système de paiement hors caisse numérique qui se développe en Indonésie. Plus tard, l'aide sociale ou l'autre assistance qui sera fournie par la reine Maxima, en particulier en Indonésie, se fera par un système de paiement non monétaire numérique. Citant le rapport de page du secrétaire du cabinet, la reine Maxima a salué les mesures du gouvernement indonésien qui intègrent l'inclusion financière comme l'un des programmes Nawacita. La reine Maxima a également rencontré le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Agus Martowardoyo, ministre de la Planification du Développement National, Bambang Brojonegoro, et a visité la ville Bogor pour voir directement la mise en œuvre de la finance inclusive dans les écoles et les petites et moyennes entreprises. Chers amis, c'était la mise au point. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique du magazine culturel. Aujourd'hui, nous introduisons un site touristique à Java Central, la plage Sembukan. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
La plage Sembukan se trouve au village Sembukan, sous-district Paranggupito, région Wonogiri, presque 40 km à l'extrémité sud de Wonogiri, aux 2 heures de la ville Wonogiri. Cette plage a une sensation naturelle très belle, si bien qu'on pense que c'est un chef-d'œuvre de Dieu à la fin de Wonogiri. À la plage Sembukan, il y a 3 autres collines qui peuvent être utilisées comme endroit pour voir et capturer des images. En outre, l'accès aux 3 collines est déjà très bon. Il est donc facilement accessible. Au sommet de la colline, on a également construit des mosquées, masures et studios. La plage Sembukan n'a pas seulement des vagues, mais aussi les coraux qui forment de belles collines. De plus, l'étendue de corail à la plage est l'attraction fascinante pour les touristes. Les gros rochers qui se dressent fièrement sur la plage Sembukan deviennent l'attraction pour les amateurs d'escalade, bien qu'aucun des canaux officiels pour cette activité. La caractéristique de la plage Sembukan à Wonogiri est nombreux rochers pointu qui domine le rivage et les vagues étaient super. Voilà pourquoi la plage est moins pratique quand elle est utilisée pour la baignade et jeux d'eau. Mais pour ceux qui ont un passe-temps de la pêche, vous pouvez pêcher des poissons tout en profitant des paysages de la mer. Cette plage a une vue exotique de collines calcaires. Pour profiter de la beauté de la plage Sembukan, vous ne payez que 5 000 rupiah. Bien que située à l'extrémité et à l'écart de la ville, mais l'accès pour aller à la plage Sembukan est bon. Pendant le voyage, vous pourrez voir la belle combinaison de collines roches karstiques et de la végétation typique de la région. Si vous êtes à Solo, pour se rendre à Wonogiri est facile. Maintenant, outre des bus, des voitures privées ou autres véhicules à moteur, vous pouvez également monter un bus de rail qui a été récemment inauguré. Vous pouvez monter cet autorail de la station Purwosari à Solo vers la station Wonogiri. Un bus de rail en nécessite d'environ 1 heure 45 minutes. Le prix de cet autorail vers Wonogiri est 4000 roupias par personne. Tout à fait abordable, n'est-ce pas? Et puis, dans la station Wonogiri, vous pouvez louer un véhicule pour se rendre à la plage Sembukan. Satisfait de voir la beauté de la plage Sembukan, vous pouvez profiter de la jeune noix de coco fraîche pour accompagner d'aliments frits, tout en appréciant le bruit des vagues qui se brisent sur les gros rochers. Si vous êtes à Java Central, en particulier solo, et vous voulez vous détendre pendant un moment, visitez la plage Sembukan. Vous verrez le panorama qui ne peut jamais être oublié. Demain, nous allons rencontrer à nouveau avec d'autres sujets intéressants. À demain! Chers amis, bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec l'Indonésie en couleur. Ce soir, nous vous présentons l'information sur la fête de la baie Ambon. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Du 6 au 10 septembre 2016, on va lancer la fête de la baie Ambon 2016 à Ambon, Moluques. Comme un événement annuel de la province de Moluques, la fête de la baie Ambon 2016 a pour thème Alam Beta Indah, soit ma nature est belle. Ce thème a été choisi par le gouvernement régional de Moluques pour compléter la marque touristique nationale, à savoir l'Indonésie merveilleux. Alam Beta Indah exprime la fierté sur la beauté des destinations à Moluques, en particulier le tourisme marin et la culture. Cet événement a pour but de promouvoir le tourisme à Moluques, de stimuler les visites touristiques nationales et étrangères, d'élargir les possibilités de climat et d'opportunités d'affaires au secteur du tourisme et de favoriser un sentiment de fraternité. La fête de la baie Ambon est le plus grand événement national organisé par le gouvernement provincial en collaboration avec le ministère du Tourisme. Cet événement donne un aperçu de la beauté de la baie Ambon en montrant le potentiel pour le tourisme marin et la culture. Le 6 septembre, dans le centre-ville d'Ambon, on lance l'anniversaire de l'église protestante des Moluques. Puis, le 7 septembre, il y a un carnaval culturel et un festival de la bande de style hawaïen qui anime l'anniversaire de la ville Ambon. L'activité de nettoyage de plage impliquant les communautés, les institutions et les étudiants effectuées dans la baie côtière d'Ambon le 8 septembre. À cette date, a également lieu la soirée d'ouverture de la fête de la baie Ambon qui sera ouverte par le ministre du Tourisme, Arif Yahya, ainsi que la parade des bateaux décoratifs et la présentation de l'art et de la culture. Le 9 septembre, les touristes qui viennent peuvent suivre la gymnastique de masse au pont Merah Putih, soit rouge-blanc, ainsi que de regarder les beaux poèmes musicaux dans la région sous le pont rouge-blanc Tantui. En outre, on lance aussi le concours de logo touristique pour les participants âgés de 18 à 25 ans. La cérémonie de clôture a lieu le 10 septembre au pont rouge-blanc Tantui, précédée par l'activité traditionnelle du bateau outrigué de femmes et celui d'hommes, ainsi que l'attraction de la pêche traditionnelle et le nettoyage des récifs coralliens dans la baie Ambon. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Au revoir.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Donc, c'est chers auditeurs, la voix d'Indonésie que vous soyez. Bienvenue à nouveau avec moi, Yubi Surianto. Dans le magazine musical, un segment musical vous présente la musique traditionnelle ou moderne. Autour des ondes de CUT 900-200 kHz, vous pouvez également écouter ce programme en notre streaming audio à www.voi.co.id et aussi l'application RRI Play à votre Android. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter un groupe de musique appelé Numata. Enfin, on lui connaît plus loin, on écoute sa chanson intitulée « Jangan Katakan ».
Sebelum
Vous avez écouté tout à l'heure une chanson du groupe Numata intitulée « Jangan Katakan ». Il était la chanson principale du premier album Numata intitulé « Écoutez » publié en 2004. Cette chanson, pop ballade, raconte de quelqu'un qui supplie son amant de ne pas laisser. Numata est un groupe qui se compose de trois frères et fils d'une chanteuse tricounou des années 70, s'appelait Tetikadi. Ils sont Tantra, piano ou pianiste, Mala, vocaliste et guitariste, et Inu, le batteur. Le groupe a été formé à Bandung, Java de l'Ouest, en 2002. Numata choisit la musique pop animée, le monde de la musique indonésienne. Écoutons donc une chanson de Numata suivante, intitulée « Le roi est tombé en amour ». Vous avez écouté tout à l'heure l'autre chanson du groupe Nous Matin, intitulée Le Roi était tombé en amour. Cette chanson a explosé sur le marché. La chanson est tirée de son deuxième album Nous Matin, à savoir Nous Matin, et sorti en 2007. La chanson, qui a le tempo plus rapide de la chanson Jangan Katakan, raconte l'histoire d'un homme qui est dans l'amour et ne renoncera pas pour obtenir les femmes, la femme qu'il aimait. J'ai chuté en 2009, Nous Matin a encore publié l'album intitulé 3 égale 1, contenant deux chansons hits intitulées Comme ça, comme si et Tarela. Après 12 ans de carrière dans le monde de la musique indonésienne, Nous Matin a publié le meilleur album intitulé L'histoire de Nous Matin, avec une chanson hits Chez tu. Cette chanson, produite par un compositeur de la guitare connu, Torpati, dans la tempo balade, cette chanson raconte l'histoire de la sincérité d'une personne partenaire amoureux. J'ai jamais, c'était notre magazine Musica aujourd'hui qui a présenté une Nous Matin. Avant que nous terminons notre programme ce soir, on écoute deux chansons de Nous Matin intitulées C'est tout et le gardien du cœur. Bonne écoute et au revoir.
Saat ku tak berdaya menyerah menyusuri hidup, jangan biarkan aku terluka, ku di sini membutuhkanmu.
Adanya diri. kesungguhan hatimu itu saja. Ketulusan cintamu itu saja.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.